Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h47, dans quelques instants, Éric Revel et Phil Bilger sont avec nous. En attendant, c'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui, et un sigle, ENA, qui va donc disparaître et qui a la une de beaucoup de vos journaux.
Hein. Oui, la fin d'un système, titre par exemple aujourd'hui en France, qui semble donc y croire à cet institut du service public qui prendra la suite. Libération, pour sa part, est beaucoup plus sceptique. Je cite, « L'ENA est morte, vive l'ENA !» est devenu le symbole de la technocratie et des élites coupées du réel. L'école était dans le viseur depuis la crise des Gilets jaunes, mais loin de la suppression annoncée, selon Libération, c'est plutôt une réforme de façade cachée derrière un changement de nom.
Oui, c'est ça. Et puis, il y a à ce titre un témoignage assez surprenant qui est dans le journal L'Opinion.
Oui, celui d'un conseiller de l'Élysée qui raconte sa grande surprise lorsqu'il a appris en écoutant la radio hier que le président allait annoncer dans la journée la suppression de l'ENA. Les annonces surprises le matin même, c'est un truc de campagne, s'amuse ce conseiller du président, comme un parfum finalement de présidentiel, faut l'avouer, à l'approche donc de la future présidentielle l'an prochain, 2022.
Oui, ça c'est pas faux. Merci à vous Benjamin Glaise. Revue de presse que l'on poursuit avec Midi Libre et Yann Marek, rédacteur en chef de Midi Libre qui est avec nous. Bonjour Yann.
Bonjour Patrick.
Bonjour à tous. En une de Midi Libre ce matin.
Alors deux unes particulières. Évidemment, nous revenons sur le gel. Les gels noirs qui ont touché toute la région, parce qu'on peut dire toute la région, avec des formes diverses. Vous savez, la viticulture a été très 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 durement touché, mais n'oublions pas aussi tous les fruitiers.
Bien sûr.
Les fruitiers étaient en fleurs. Nous avons des témoignages qui sont terrifiants avec des personnes. Moggio, une localité qui est très proche de Montpellier, avec 40 hectares de pruniers qui sont totalement gelés. Des témoignages partout, dans le Gard, dans l'Hérault, dans l'Ouest Hérault, où effectivement ce froid a pris de court un petit peu tout le monde, malgré les mesures de précaution. Donc nous avons une ouverture très forte sur ce sujet. Ce matin, c'est l'actu du jour.
Oui. Non, mais complètement. On en a parlé avec tous nos invités ce matin, Yann, c'est vrai. Et c'est dans. Alors, en Occitanie de votre côté, et c'est de l'autre côté aussi, dans le sud-ouest, et en remontant dans la vallée du Rhône. Hein.
Absolument, absolument. Nous avons une carte qui permet de voir un petit peu ce froid qui a frappé. Et puis, nous avons également une autre une avec ces problèmes d'éoliennes dans la région, parce que ces éoliennes, c'est une première en France. Il y a eu une décision de justice de détruire 7 éoliennes au nord de l'Odève, des éoliennes de 93 mètres. Ça mettra un an avant de les détruire, et nous avons recensé qu'il y en avait 959 en Occitanie, et il y a 170 recours, essentiellement dans l'Hérault, le Tarn, l'Aveyron, et puis l'Aude. Donc nous faisons le tour de la question, parce qu'effectivement, on le sait, beaucoup d'associations montent au créneau pour la défense des territoires contre ces éoliennes, et aujourd'hui, nous en sommes à plus de 900 qui sont en fonctionnement, et beaucoup, beaucoup de recours. Nous faisons un état des lieux ce matin dans Midi Libre à travers un sujet que nous a proposé Yannick Philipponin.
Oui, merci à vous Yann Marek, donc, cette double une, et donc les gelées noires notamment, qui concernent beaucoup de régions et beaucoup d'arboriculteurs et de viticulteurs.
Restez avec nous, c'est le Grand Matin Sud Radio, et on continue le petit déjeuner de l'actualité avec nos préférés du vendredi, hein, Philippe Bilger et Éric Revel.
Oui, Philippe Bilger d'ailleurs, bonjour à tous les deux.
Bonjour Patrick, Roger.
Bonjour Patrick.
Oui. Et bonjour Cécile.
Oui, d'abord avec vous Philippe Bilger, sur la dernière partie de l'interview tout à l'heure avec Bruno Le Maire, on est revenu sur cette histoire Chalençon. Vous, quel est votre regard sur cette histoire qui a défrayé la chronique toute la semaine, quasiment quoi. Alors Bruno Le Maire a dit, là on est vraiment, on est dans la boue, on est plus bas que tout avec cette histoire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez?
J'ai écouté évidemment avec beaucoup d'attention l'entretien que vous avez eu avec Bruno Le Maire, et sur ce dernier point, je le rejoins absolument. D'une part, je considère, mais sans doute ai-je tort, qu'il y a une hypertrophie médiatique sur les absurdités proférées par ce Chalençon et les soubresauts de cette affaire, mais c'est vrai, quand Bruno Le Maire évoque un délitement de la démocratie, quelque chose de putride, je suis totalement d'accord avec lui. Ça révèle à quel point nous sommes dans une démocratie exacerbée, irritée, et qui porte au paroxysme quelque chose qui se trouve parfois dans l'esprit français, la jalousie, le soupçon et l'envie.
Oui, mais peut-être en même temps, on cherche aussi l'exemplarité, et elle doit passer, Éric Revel, on l'a évoqué cette semaine, par les ministres, quoi, non ?
Oui, bien sûr, oui. Mais bon, il n'y a rien à dire sur cette fin d'interview. Je pense qu'il a bien résumé la situation, Bruno Le Maire. C'est l'autre bout de fin d'interview, si vous me le permettez, qui m'intéressait le plus, mon cher Patrick.
Sur quoi ? Sur la Turquie ?
Oui. Non, sur l'ENA. Sur l'ENA, j'ai trouvé ça très intéressant. D'abord parce que Bruno Le Maire est énarque, qu'il est aussi École Normale Supérieure ENS de Paris. Donc, c'était intéressant d'avoir son regard. Mais surtout, vous avez noté que pour lui, c'est bien le point de départ, en tout cas, c'est ce qu'il dit, d'une réforme de l'administration française. C'est ce qu'il dit. Bon, or, jusqu'à présent, on avait entendu le président de la République, alors candidat, faire campagne notamment sur ce thème-là, c'est-à-dire la réforme de l'administration publique. Et là, moi, j'ai eu le sentiment, je vais vous dire, que Bruno Le Maire développait un programme d'un futur candidat, alors pas lui, hein, évidemment, mais pour Emmanuel Macron,
évidemment.
Il me semblait assez clair.
En même temps, il pourrait l'être, mais il l'a été.
Il pourrait l'être, mais je pense qu'il se positionne davantage, sans doute, comme futur Premier ministre. Oui. Il en a tout à fait la carrure. Je pense que c'est plutôt ça, son challenge. Ce qui est quand même fascinant, si vous voulez, dans ce pays, c'est que je regardais quelques chiffres. Il y a 6 millions de fonctionnaires en France, il y a 20 000 hauts fonctionnaires, et sur les 20 000, il y a 4 500 énarques. Bon, alors je veux bien qu'on se focalise sur l'ENA, pourquoi pas. Mais en réalité, c'est pas ça qui va faire que la bureaucratie française va mieux fonctionner, le fait d'avoir supprimé l'ENA et de l'avoir remplacé par un institut de service public. Donc en fait, si vraiment, comme il le dit dans l'entretien qu'il vous a accordé, Patrick, c'est le début d'une réforme de l'administration, d'une meilleure gestion des carrières, c'est tout à fait intéressant. Mais si on pense qu'en donnant ce symbole en pâture, notamment aux gilets jaunes, le président de la République va s'exonérer de pointer du doigt une fois pour toutes, et on le voit bien dans la vaccination, la bureaucratie française. Là, je pense qu'on se gourre et qu'on fait fausse route.
Ah bah bien sûr, et d'ailleurs, il y a des représentants de gilets jaunes aussi qui ont réagi dès ce matin, nous les avions sur Sud Radio, et qui disent, bon, tout ça, c'est un peu de la foutaise. Philippe Bilger.
Patrick, moi j'ai trouvé très intéressante la référence à plusieurs reprises de Bruno Le Maire au quinquennat à venir. D'une certaine
on
manière...
On n'y est pas encore, en plus.
Non, mais sans arrêt, à deux ou trois reprises sur vos questions, il disait, mais bien sûr, dans le prochain quinquennat, on devra faire ci, on devra faire ça. Est-ce que, implicitement, ça veut dire que le président de la République se représentera, bien sûr, et qu'il gagnera, c'est le premier point. Mais j'ai toujours senti chez Bruno Le Maire, notamment à partir de son excellent dernier livre, alors que les précédents n'avaient pas la même qualité à mon avis, une sorte d'adhésion, mais toujours subtilement critique, au président de la République. Et l'entretien qu'il vous a donné va dans le même sens. Il reconnaît l'échec des vaccins. C'est trop rare pour ne pas être souligné. Oui. Et d'autre part, c'est un ministre qui, à l'évidence, a de la densité, contrairement à certains autres.
Oui. En revanche, d'une question, puisque vous êtes spécialiste économie, Éric Revel, sur son plan de relance, on le trouve quand même, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais assez optimiste, quoi, parce que elle n'est pas derrière nous, la crise, elle est quand même devant nous, la crise, je parle plus économique et sociale, non ?
Oui, bien sûr. Bah, bien sûr. Mais bon, Bruno Le Maire pouvait évidemment pas dire le contraire. Et c'est aussi toute l'assurance d'un homme politique madré. N'oubliez pas que Bruno Le Maire, même s'il a 51 ou 52 ans, ça fait un bout de temps qu'il est en politique. Il a été directeur de cabinet à l'époque de Dominique de Villepin quand il était au Quai d'Orsay, si ma mémoire est bonne. Donc ça fait un bout de temps. D'ailleurs, son premier livre qui avait marqué les esprits, puisque Philippe Bilger en parlait, c'était Dans les allées du pouvoir, où il racontait un peu son immersion comme directeur de cabinet auprès de Villepin. Donc en fait, c'est un personnage, Bruno Le Maire, je pense, qui est à la fois bon, un technicien, très bien, de la chose économique, mais aussi qui est un politique. Et ça, souvent, les gens ne le perçoivent pas au début. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, il est un peu lisse comme ça, il connaît bien les rouages économiques, il tient bien Bercy. Mais en fait, il a cette dimension supplémentaire, et c'est une force, en réalité, que les autres ne lui reconnaissent pas d'entrée. C'est sa capacité politique. Et dans l'intérêt interviews qu'il donne, à plusieurs reprises, vous sentez qu'il a cette fibre politique très, très, très forte. Alors, évidemment, il ne va pas vous dire que la relance est gagnée et que c'est terminé. En revanche, ce qui est assez juste, c'est qu'il vous a parlé de rebond de l'économie française. C'est vrai qu'au sortir de ce premier gros confinement de l'année dernière et de la réouverture des commerces, des restaurants l'été dernier, on a vu la capacité de l'économie française à une très forte résilience qui se comprend bien parce que les gens sont tellement contraints entre le couvre-feu et le confinement que dès l'instant, pour ceux qui en ont les moyens, qui peuvent consommer, bien ils se jettent dans la consommation pour un peu oublier ce qu'ils ont vécu précédemment. Mmh. Et cette économie française, elle a cette capacité-là. Je pense qu'il a raison.
Oui. Bon, bah écoutez, c'est à suivre. À suivre justement aussi la réforme de l'ENA. On va en reparler dans un instant avec des spécialistes et avec vous. Et avec vos réflexions aussi. 0826 300 300. C'est ouvert. Hein. On peut parler de tous les sujets aussi. Il n'y a pas de tabou, évidemment. Parlons vrai.
Absolument. Restez avec nous. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Il est 9h05, dans une dizaine de minutes, comme dirait Patrick, un homme, un vrai, ça s'appelle le chef de guerre, Louis Saillant sera avec nous.
Ah oui,
c'est un chef des commando marine, hein, wow. Qui est un chef de groupe, et je peux vous assurer que le livre, il envoie.
Ah ben non, mais déjà quand il parle du stage, avant d'être sur le terrain, où il est allé sur des lieux d'attentats, etc., enfin en Afghanistan, en fait, un peu partout, mais déjà, rien que le stage d'intégration, ça fait peur. Hein.
Oui,
100
oui.
kilomètres, déjà, et puis alors, il y a un moment donné, il y a une épreuve de 30 km, je crois, enfin on lui redemandera, où vous ne pouvez pas marcher, vous ne devez faire que courir, non-stop, quoi. Et la nuit, vous ne pouvez pas dormir.
Sachant que vous avez quand même beaucoup de kilos sur le dos, hein, régulièrement.
Plus après...
L'eau glacée,
il faut plonger dans une cuve, etc. Même les plus costauds, finalement, renoncent, quoi.
On va vous inscrire, Patrick, on sait jamais. On sait jamais. Bon, écoutez, pour vos vacances.
Ouais.
On en parlera en tout cas dans quelques instants. Il s'appelle Louis Saillant, ça s'appelle Chef de guerre. En attendant, on va revenir sur notre
question du jour,
parce que c'est important aussi d'en parler. Est-ce que vous approuvez le remplacement de l'ENA par un institut du service public? Pour l'instant, vous dites non à plus de 80%. Vous dites qu'il aurait fallu supprimer directement. On va en parler avec Philippe Bilger et Eric Revel.
Ouais.
Et vos appels 0826 300 300, avec Patrick qui nous appelle de Fréjus.
Oui,
bonjour Patrick.
Patrick qui veut parler d'un autre sujet. Hein. Bonjour Patrick.
Oui. Oui, bonjour Patrick. Oui, ça n'a rien à voir avec l'ENA.
Ouais.
Mais j'ai cru ce matin qu'il y avait eu un attentat à Paris et qu'ils avaient trouvé des terroristes.
Ah bon ?
Et quand j'ai su que c'était le fameux monsieur là, dont on parle depuis dimanche...
Chalençon.
Cette histoire.
Ouais.
Depuis dimanche, on nous fait ça.
C'est vrai.
Mais je me demandais ce qui se passait ce matin.
Bon.
Écoutez, sincèrement, je trouve quand même que c'est un peu exagéré.
Ouais.
Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, attention, un peu du tout, vu que je suis comme 99% des Français, dont vous, j'imagine, on est sérieux, tout ça. Mais quand même, qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais ce monsieur doit se demander ce qui doit lui arriver. C'est disproportionné, voilà, c'est comme ça que j'ai trouvé.
Mais créer la suspicion sur des membres du gouvernement, c'est pas grave, selon vous?
Attendez, Tout est grave, mais je trouve que c'est démesuré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que il y a pas des choses plus importantes que ça, sincèrement, depuis 4 jours, 5 jours, sincèrement. Je trouve que c'est démesuré. On se demande si quelle est l'embrouille, parce que si je le connais pas bien, ce monsieur, je l'ai vu bien sûr à la télé, mais si j'ai bien compris, il faisait partie des sphères du pouvoir il y a 15 jours, 2 mois, 3 mois, 6 mois, et puis là maintenant ils vont le jeter. Bon, je pense que la semaine prochaine ils vont le pendre sur la place publique. Il faut bien y arriver à quelque chose. Non, mais vous voyez, c'est ça qui est un peu bizarre, c'est-à-dire que c'est des excès médiatiques.
Dans un sens comme dans un autre, quoi, des excès, quoi,
Oui. Ah ben oui, parce que ce qu'il a fait, c'est inadmissible, hein, franchement, c'est inadmissible. Nous, on est à Fréjus, tout est fermé, on fait rien du tout. Bon, on fait des économies d'argent, c'est bien. Mais autrement, on fait rien du tout, c'est vraiment terrible, et on voit ça. Mais j'ai trouvé que l'ampleur médiatique, c'est-à-dire on a l'impression qu'ils ont à faire d'autre que ça. Un jour quand même, hein. Je crois bien, hein, dimanche, ça commençait dimanche.
Oui, oui, non, mais totalement. Le week-end dernier, et ça a tenu, vous avez raison, une semaine. Et d'ailleurs, fini, ça s'est peut-être terminé avec la déclaration de Bruno Le Maire tout à l'heure, qui a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, l'image de la France, de voir ça, mais c'est pas possible, quoi. Voilà. Merci, en tout cas, Patrick, hein, de votre appel. Bonne écoute de Sud Radio,
pas
évidemment.
Comme d'habitude, bonne journée.
Oui, merci. Bonne journée aussi.
Bon week-end. Au revoir à tous les deux, vous aussi, bon week-end. Au revoir.
Bah, oui.
On a un peu de soleil, on va aller au bord de mer, bon, pas se baigner, mais on a un peu de soleil, même beaucoup de soleil.
Oh, arrêtez.
Par contre, demain, il va pleuvoir.
Arrêtez, arrêtez.
Pas bien ce que vous faites.
C'est pas bien, là. Vous nous donnez envie d'aller, nous aussi, vous rejoindre à Fréjus. Mais on n'a pas le droit.
Hein. Pas
vous savez qu'il y a le jeu de bornes. Il y a le jeu des 10 bornes aujourd'hui.
C'est
le titre de la Provence ce matin, le jeu des 10 bornes. Hein. On sort qu'à 10 km autour de chez soi. Merci en tout cas, Patrick. On poursuit sur notre autre sujet. Là, vous pouvez appeler aussi 0826-300-300.
Cécile. Oui, et puis on vous l'a dit, approuvez-vous le remplacement de l'ENA par un institut de service public. Pour l'instant, vous dites non à 80%. Et on va en parler ce matin donc avec Éric Revel et Philippe Bilger, mais aussi avec Éric Vera, qui est avec nous, ancien élève de l'ENA, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges.
Oui, et Luc Farré, bonjour Éric Vera. Et Luc Farré, qui est aussi avec nous, qui est secrétaire général de l'UNSA Fonction Publique, hein, qui travaille donc avec l'ensemble de la fonction publique. Éric Vera, on va commencer par vous. Vous êtes un ancien élève de l'ENA. Vous avez eu accès grâce aux bourses, hein. Vous êtes issu du fameux ascenseur social. Est-ce que vous étiez favorable à cette réforme ?
Oui, alors, parce que d'abord, il se trouve que quand j'ai fait l'ENA, j'ai été élu au conseil d'administration et je me souviens d'avoir fait un mémorandum pour la démocratisation de l'école qui proposait la fin de l'accès direct au grand corps, précisément la vraie réforme qu'Emmanuel Macron vient de faire. Donc moi, j'applaudis, je sais que j'ai fait l'ENA un an ou deux avant Macron.
Oui.
Et j'applaudis des deux mains cette réforme. Ça faisait 20 ans qu'on l'attendait. Donc, je suis de ceux qui pensent qu'il faut pas seulement faire de l'affichage sur la réforme de l'ENA, parce qu'en effet, il y a un côté un peu facile, mais qu'il faut restructurer, faire une réforme systémique de la haute fonction publique et modifier en profondeur le fonctionnement de l'État. Donc moi, je suis favorable à cette réforme.
Oui. Luc Farré, vous, comment prenez-vous cette réforme annoncée, cette suppression et son remplacement par un institut des services publics ?
Mais le fait que ce n'est pas une suppression, mais une évolution et un remplacement avec des modifications nous paraît être un élément qui va dans le bon sens, parce que supprimer l'ENA d'un coup de crayon aurait probablement posé beaucoup de problèmes, parce que nous, à l'UNSA, on est attachés à la formation, des agents qui vont de fait servir le pays, servir la nation. Et comme je le dis souvent, on ne gère pas une entreprise privée comme on gère la nation. La nation, il faut privilégier l'intérêt général.
Oui,
et ça s'apprend.
Oui, mais Luc Farré, là, il y a eu quand même beaucoup de défaillances de l'administration en question et de la fonction publique dans la gestion de la crise sanitaire. Et on le voit aussi dans d'autres secteurs. Hein. L'éducation nationale, je ne sais pas qui est responsable de l'ensemble des bugs de toute cette semaine avec l'école à distance. Mais il y a quand même un souci très clair, non ?
On peut y voir des soucis, mais est-ce que vous pensez, quand le gouvernement s'adresse à un cabinet privé comme McKinsey, par exemple, est-ce que ça permet de résoudre réellement les problèmes dans cette crise sanitaire ? Et là, j'ai bien dit un cabinet privé. Donc, on voit bien qu'il y a des compétences qui existent, il y a des écoles de formation qui existent, et il faut qu'on sache faire appel à toutes ces compétences. Et peut-être que là, il y a une réforme à faire, et l'accès, comme le disait Éric juste avant moi, que l'accès au grand corps est le fond de la réforme. Et là, c'est une vraie nécessité de faire passer les futurs administrateurs par le terrain avant de faire de l'inspection.
Oui, mais alors, il y a par exemple beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, comme Razienne, comme Dos Santos. Par exemple, Dos Santos qui dit « c'est une grosse arnaque de Macron parce qu'il change juste le nom de l'ENA, mais rien ne changera, Éric Vera ».
Non, je comprends que des gens disent ça,
oui.
Mais notamment parce que la communication sur cette affaire s'est limitée à la surface des choses. En réalité, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il va y avoir la recherche d'un tronc commun, mais moi, je suis assez d'accord si oui, sur l'idée qu'on a changé un nom, on a changé le nom du produit, mais que l'essentiel du produit va rester.
Bah,
ce
oui,
qui
c'est
compte,
ça,
c'est ce que les gens doivent comprendre.
C'est pas l'étiquette du sac, hein, mais c'est le contenu, quoi, comme dit Eurasian.
Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que ce qui pose problème à l'ENA, ce n'est pas la façon d'y entrer, c'est la façon d'en sortir. Et l'ENA est en réalité une espèce de chaudron magique où on tire une dizaine de personnes qui vont pendant toute leur vie être considérées comme les aristocrates du système et n'auront plus réellement de compte à rendre ou seront toujours protégés quoi qu'ils fassent.
Ouais.
Et donc le problème, ce n'est pas les gens qui entrent à l'ENA, le problème, c'est les gens qui en sortent et les sauf-conduits qu'ils auront pendant les 40-45 années de carrière qui suit. C'est ça le problème.
Ouais.
Et la réforme de Macron, pour le coup, et ça m'étonne qu'il l'ait fait,
ouais.
La réforme de Macron s'attaque à ce problème et c'est ça le vrai sujet.
Ouais. Éric Revel qui est avec nous aussi, il y a Philippe Bilger, mais Éric d'abord.
Oui. Écoutez, moi, je ne partage pas l'enthousiasme de nos deux intervenants. D'abord, je voudrais répondre aux syndicalistes une petite chose, c'est que si McKinsey, entreprise privée, monsieur, par un coup de baguette magique, avait mis fin au fiasco administratif, notamment sur la logistique de la vaccination, alors là, ça voulait dire que l'administration était absolument pas efficace. C'est la première chose. La deuxième chose, vous dites, on ne gère pas l'État comme on gère une entreprise privée, l'intérêt général est au centre des préoccupations, vous avez raison. Mais j'ai envie de vous renvoyer un petit peu la balle en vous disant, on se rend bien compte effectivement que l'État n'est pas géré comme une entreprise privée. Parce que quand on voit ce qui s'est passé sur la vaccination par exemple, ou ce dont parlait Patrick Roger sur les différents bugs du CNED, qui est quand même une entreprise public subventionné par l'État, par les contribuables, on a quand même des doutes sur l'efficacité de l'administration. Et moi, j'oserais vous dire à tous les deux, si je peux me permettre, souhaitons que la disparition de l'ENA, bon, la politique, c'est l'accumulation de symboles, tout le monde le sait, et son remplacement par cet institut soit le départ, peut-être, d'une réforme en profondeur, à la fois des rouages administratifs de l'État, mais aussi de la gestion des carrières. Parce que quand vous regardez, finalement, sur les 20 000 top managers dans l'administration française, il n'y a que 4 500 énarques, ce qui n'est pas colossal. Le problème, c'est que l'ENA est devenue une sorte de bouc émissaire un peu facile des difficultés de l'administration, voire de l'arrogance de l'administration, de la haute administration française vis-à-vis du peuple. C'est ça aussi, à mon sens, qui était visé. Pardonnez-moi.
Oui. Philippe Bilger, un mot, peut-être, aussi.
Alors, un mot, Patrick. Que bien avant les gilets jaunes, j'avais trouvé excessif l'ENA bashing qui servait en effet, comme le dit très bien Eric, de bouc émissaire. Deuxième élément, et je le sais par expérience familiale, le deuxième élément, c'est le fait que je ne peux pas m'empêcher de trouver démagogique le moment choisi par le président pour proposer la réforme de l'ENA. De la même manière, c'est un registre infiniment plus douloureux de faire venir la proposition de loi, enfin, d'Olivier Falorni sur l'euthanasie. Dernier élément, Patrick.
Diversion, quoi, c'est ce que vous dites.
Oui, et puis surtout, il faut vite ouvrir quelque chose un an avant l'élection présidentielle qui est susceptible d'attirer des couches, je dirais, plus progressistes, entre guillemets. Dernier élément, si l'approche de cette réforme n'est pas purement superficiel, peut-être y a-t-il quelque chose de cohérent dans le fait de trouver, d'inventer un institut des services publics. J'y verrais un avantage non seulement pour l'ENA, mais puis-je le dire pour l'école de la magistrature qui serait intégrée dans l'ensemble et qui pourrait alors découvrir ce qui lui manque, c'est-à-dire que l'État existe, son autorité, et que la magistrature n'est pas complètement déconnectée de tout cela.
Oui, mais je ne sais pas si ce sera le cas. Il y aura peut-être un tronc commun dans un premier temps. Éric Vérag, vous qui connaissez bien cette réforme, est-ce qu'il y aura, un tronc commun, c'est ça, à l'ensemble des écoles de la haute fonction publique?
Petit tronc commun entre toutes les écoles. Oui. Et pour le reste, chaque école, a priori, de ce que j'ai lu, garderait sa marque.
Mais
je voudrais là-dessus
donc
dire...
Donc vous décevez, Philippe Bilger.
Le tronc commun, c'est important.
Oui, mais enfin, c'est 3 mois de tronc commun.
Mais même, vous savez, Patrick, en 3 mois, on peut faire beaucoup de choses.
Oui, bon, d'accord. Bon, je suis pas sûr. Enfin, bon.
Si je peux rebondir sur ce que disait le camarade Revel, moi, je ne fais pas d'angélisme. Je crois que cette réforme est une étape importante, mais c'est un point de départ. Et elle ne suffit pas. La vraie réforme de l'État, c'est le jour où on supprimera la garantie de l'emploi pour les 20 000 top managers qu'il évoque, qui aujourd'hui ont le droit de rater, comme on l'a vu 15 000 fois pendant cette crise de la pandémie, en toute impunité. Ouais. Ce qu'il faut, c'est que ces gens-là puissent être licenciés et sortis des cadres et remplacés par des gens compétents.
Et puis, ils se refont les postes un peu, ça il faut bien le dire.
Qui se font à la courte échelle et qui ont capté le pouvoir à leur profit, qui font l'État profond dont parle Emmanuel Macron.
Oui, oui. Luc Farré, ça existe quand même aussi, non ? Ce réseautage.
Oui, faut pas le nier, mais ce qu'il faut aussi qu'on se dise, c'est qu'on regarde la réalité. La vaccination, il y a une part d'échec, mais il y a aussi une réalité. Et la réalité, c'est quoi? C'est un, on a manqué de masques à un moment donné, et on n'a pas su le dire. Deux, on manque de vaccins et on n'a pas su le dire suffisamment, et que les deux problèmes sont de cette nature-là. Et ça, ce n'est pas qu'un problème d'organisation de l'administration.
Oui, c'est vrai.
Oui, non, juste Patrick. Ce que disait Éric Vérag me semble parfait. Je voulais juste rajouter quelque chose sur l'État profond. Il me semble avoir en mémoire des déclarations fortes du président de la République lorsqu'il a accédé au pouvoir, expliquant qu'il allait mettre bon ordre dans la direction des administrations françaises. Il allait remplacer un certain nombre de gens pour éviter cette consanguinité. Bon, qu'a-t-il fait depuis? En réalité, pas grand-chose. Il a montré du doigt l'État profond, qui est un vrai problème en France, me semble-t-il, très bien, mais est-ce qu'il est passé à l'action pour remplacer ses patrons d'administration centrale? Eh bien, je crois pas. Mmh. En fait, sont toujours les mêmes, et les courtes échelles multiples et variées auxquelles se livrent les énarques ont toujours lieu, et c'est pas Emmanuel qui a mis bon ordre. Donc le symbole de supprimer l'ENA pour mettre autre chose, bon, très bien. Oui. Mais pardonnez-moi, j'ai le sentiment, une fois de plus, qu'on est dans de la communication.
Bon, dernier mot, Philippe Bilger, et puis après...
Oui, très vite, Patrick, j'adore la délicieuse et intelligente naïveté d'Éric Vérag, qui est persuadé que dorénavant, lorsqu'on aura échoué, on sera renvoyé. C'est assez comique, d'une certaine manière, parce que je ne crois pas que la tradition française, qui consiste à donner des ascenseurs à ceux qui ont échoué, disparaîtra.
Bon, eh ben écoutez, on refera le débat ensemble. Merci en tout cas, Éric Vérag, Luc Farré, Philippe Bilger, Éric Revel. À propos de vaccination, je voudrais apporter une petite précision qui nous est venue de ce matin sur l'AstraZeneca. Vous savez, il y a énormément d'interrogations. Pour les vaccinés de moins de 55 ans qui ont déjà reçu l'AstraZeneca, la deuxième injection va se faire cette fois avec des produits ARN. On attend une que ce soit décidé en fait dans la journée, mais ça va semer encore un petit peu plus le trouble autour d'AstraZeneca, à mon avis, en fait, cette histoire. Bon, alors après, il faut prendre des décisions, évidemment, quand les choses ne vont pas, mais là, ça va semer encore plus le trouble, et à mon avis, il va y avoir encore davantage d'annulations de patients qui avaient décidé de se faire vacciner AstraZeneca. Allez,
vous avez raison de parler de prendre des décisions, parce qu'il en a pris des décisions. Ce Louis Saillant qui est avec nous, chef de guerre au cœur des opérations spéciales avec un commando marine, il est avec nous. On reviendra sur pas mal d'opérations sur le terrain et vous verrez quand même ce que c'est qu'un bonhomme.
Ah bah oui, il nous vient du sud-ouest
d'ailleurs, au passage. Non mais ne dites rien Patrick, je ne m'adresserai qu'à lui, à tout de suite.